Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, comme chaque jeudi, 14h, c'est l'actualité du pape François. Et dans cette actualité, nous commencerons avec une catéchèse du Saint-Père avant la prière de l'Angélus dimanche dernier. Et nous poursuivrons également avec la situation préoccupante du Venezuela. Nous parlerons également bien sûr de l'audience générale, l'audience du mercredi, catéchèse du Saint-Père, prière pour l'unité des chrétiens, c'est le thème de cette catéchèse. Quelques mots également du Saint-Père sur l'arrêt complet, l'arrêt total de l'utilisation des armes nucléaires, ainsi que quelques mots sur l'explosion qui a eu lieu à Madrid en Espagne. Et comme à notre habitude, nous terminerons cette actualité sur une méditation, méditation du Père Adrien Lentiampa sur le baptême du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette actualité du pape François. Et nous commençons donc par l'Angélus. C'était donc dimanche dernier, une catéchèse du Saint-Père avant la prière de l'Angélus, avant de réciter donc cette prière de l'Angélus depuis la bibliothèque du Palais Apostolique, donc dimanche 17 janvier 2021. Le pape François a proposé une catéchèse sur la rencontre avec le Christ et les différentes manières dont Dieu appelle chacun individuellement. Tous ces appels incarnant une initiative de son amour. Alors, s'appuyant sur l'évangile de ce jour-là, dimanche dernier, le pape narre la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Alors, la scène se déroule au bord du fleuve du Jourdain, le lendemain du baptême de Jésus. Alors, c'est le même Jean-Baptiste qui désigne le Messie à deux des disciples par ces mots « Voici l'agneau de Dieu ». Et c'est de là, se fiant au témoignage du Baptiste, suivait Jésus. Alors lui le remarque et demande « Que cherchez-vous ? » Et eux l'interrogent « Maître, où habitez-vous ? » Alors Jésus ne répond pas. Il ne répond pas « J'habite à Capharnaüm ou à Nazareth. » Mais il dit « Venez et vous verrez. » Alors ce n'est pas une carte de visite, mais une invitation à une rencontre. A relevé le Saint-Père en poursuivant, et je le cite, « Il n'est pas difficile de les imaginer assis, lui posant des questions et surtout l'écoutant, sentant leur cœur se réchauffer au fur et à mesure que le Maître parle. Ils ressentent la beauté des mots qui répondent à leur plus grande espérance. Et soudain, ils découvrent que le soir tombant autour d'eux, la lumière que seul Dieu peut donner explose en eux. » Chaque rencontre authentique avec Jésus reste dans la mémoire à vie. Elle n'est jamais oubliée, a assuré le pape François. Je le cite à nouveau, « On oublie beaucoup de rencontres, mais la vraie rencontre avec Jésus reste toujours. » Et de nombreuses années plus tard, ils ne pouvaient pas oublier cette rencontre si heureuse, si pleine, qui avait changé leur vie. Alors quand ils partent et reviennent vers leurs frères, cette joie, cette lumière déborde donc de leur cœur comme un fleuve en crue, a ajouté l'évêque de Rome. L'un de ses disciples, André, dit alors à son frère Simon, que Jésus appellera Pierre, « Nous avons trouvé le Messie ». Et le pape de proposer de s'arrêter un instant sur cette expérience de rencontre avec le Christ qui nous appelle à être avec lui. Chaque appel de Dieu est une initiative de son amour. C'est toujours lui qui prend l'initiative. Dieu appelle à la vie, il appelle à la foi, et il appelle à un état de vie particulier. On a déduit donc le souverain pontife. Le premier appel de Dieu est la vie, par lequel il nous constitue en tant que personne. C'est un appel individuel, car Dieu ne fait pas les choses en série, a observé le pape François. Ensuite, Dieu nous appelle à la foi et à faire partie de sa famille en tant qu'enfant de Dieu, a-t-il complété. Et enfin, Dieu nous appelle à un état de vie particulier, à nous donner nous-mêmes dans le mariage, le sacerdoce ou la vie consacrée, convenant que ce sont là des manières différentes de réaliser le plan que Dieu a pour chacun de nous, qui est toujours un projet d'amour. Oui, Dieu appelle toujours. Et la plus grande joie de chaque croyant est de répondre à cet appel, de s'offrir tout entier au service de Dieu et de ses frères et sœurs. Et le pape d'expliquer que face à l'appel du Seigneur, qui peut nous parvenir de mille façons, même à travers des personnes et des événements, aussi bien heureux que tristes, notre attitude peut parfois être celle du refus, parce qu'elle nous semble en contraste avec nos aspirations, ou de la peur, parce que nous la considérons trop exigeante et inconfortable. L'on peut se dire « Oh, je n'y arriverai pas, mieux vaut ne pas y arriver, mieux vaut une vie plus tranquille ». Mais l'appel de Dieu est l'amour, et nous n'y répondons que par l'amour, a relevé le pape François, développant, je le cite, « Au début, il y a une rencontre, ou plutôt, il y a la rencontre avec Jésus qui nous parle du Père, il nous fait connaître son amour. Et puis, le désir de le communiquer aux personnes que nous aimons surgit spontanément en nous. J'ai rencontré l'amour, j'ai trouvé le sens de ma vie. En un mot, j'ai trouvé Dieu. » Alors pour conclure ces belles paroles, le Saint-Père appelle la Vierge Marie, que la Vierge Marie nous aide à faire de notre vie un chant de louange à Dieu, en réponse à son appel et dans l'accomplissement humble et joyeux de sa volonté. A conclu donc le souverain pontife en ajoutant, en improvisant, je le cite, « Mais n'oublions pas ceci, chacun de nous, dans sa vie, a eu un moment où Dieu s'est rendu présent plus fortement avec un appel. Souvenons-nous-en, revenons à ce moment, afin que le souvenir de ce moment nous renouvelle toujours dans notre rencontre avec Jésus. » Et nous poursuivons dans cette actualité du pape, nous allons parler du Venezuela, une population épuisée par les pénuries. Oui, le quotidien des Vénézuéliens est devenu insoutenable dans un pays dévasté par une crise économique, politique et sanitaire majeure. Alors l'église là-bas, proche des habitants, apparaît comme le seul repère. Voilà ce dont a témoigné le père Rangel, curé de la paroisse de Salvador à Caracas, qui lance un appel à l'aide. Et le pape François a fait part, c'était ce mardi 19 janvier 2021, a fait part donc de sa proximité aux évêques, aux prêtres diocésains et religieux du Venezuela, les encourageant à servir, avec amour, les populations les plus vulnérables. Et le Saint-Père s'est d'ailleurs exprimé dans un message vidéo qui a été diffusé à l'occasion d'une rencontre virtuelle qui s'était achevée donc mercredi, promue par la Conférence épiscopale du Venezuela sur le thème « Nos prêtres dans la pandémie, leur expérience et leur exercice ministériel durant cette période ». Oui, les Vénézuéliens subissent depuis plusieurs années une crise multiforme, politique, économique et sociale, et la pandémie de Covid-19 accentue davantage leurs souffrances. L'inflation est galopante, elle a franchi le cap des 4000%, et les pénuries sont de plus en plus nombreuses, notamment en termes de nourriture et de médicaments, comme en témoigne le père Balmiro Rangel, curé de la paroisse de Salvador à Caracas et prêtre de la communauté française de la capitale. Je le cite, « Nous n'avons pas de moyens pour combattre la pandémie, et personne ne parle de cette situation », a-t-il déploré, soulignant que tous les médicaments manquent dans le pays, non seulement ceux qui pourraient soulager les malades de coronavirus, mais aussi ceux permettant de traiter de nombreuses pathologies. Les seuls médicaments disponibles sont au même prix qu'en Europe et sont donc réservés à une minorité. Et la situation est tout aussi dramatique au niveau alimentaire, a observé le père Angèle. Les magasins sont fermés, Et dans le même temps, certains commerces proposent des produits européens en dollars ou en euros. Ils ne sont donc destinés qu'à une infime partie de la population vénézuélienne que sont les nouveaux riches. Nous voyons dans la rue des personnes qui mangent dans les ordures. Et il faut parfois se faire violence pour retenir ses larmes, a confié le père Angèle avec beaucoup d'émotion. Alors pour faire face à ce désastre, l'Église s'est organisée afin de fournir quelques médicaments et de la nourriture aux personnes les plus fragiles. La Caritas est très présente et dans les paroisses, un accueil est assuré et des aliments chauds sont proposés. Aujourd'hui, l'Église catholique est l'unique institution qui tente d'améliorer le sort des Vénézuéliens, a affirmé le prêtre en charge de la communauté française de Caracas. Alors dans le marasme politique et économique actuel, elle est aussi la seule qui soit crédible et qui fait figure de repère pour la population. Il y a toute une génération qui n'a pas connu d'autres situations et manque cruellement de perspectives, a relevé le père. Les jeunes ne voient pas l'intérêt d'aller étudier, d'aller à l'université, si c'est pour finir vendeur dans la rue ou au marché, a-t-il indiqué, confiant d'ailleurs avoir rencontré un médecin chauffeur de bus. « Ne nous laissez pas perdre l'espérance », a lancé le père Angèle, le regard tourné vers la communauté internationale. Et dans cette actualité, nous en venons maintenant à l'audience générale. La prière pour l'unité des chrétiens, voilà donc le thème de cette catéchèse tenue par le pape François au cours de cette audience générale du mercredi 20 janvier. L'unité est un don, a expliqué le Saint-Père, fruit de la prière et de l'amour qui constituent les instruments que Dieu nous a donnés. Dépasser le scandale des divisions entre tous ceux qui croient en Jésus, tel est l'horizon espéré lorsqu'on implore le don de l'unité. Les chrétiens sont spécialement invités à prier à cette intention, et en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape a naturellement consacré donc sa catéchèse hebdomadaire à ce thème. Oui, la prière pour l'unité trouve sa source dans la prière sacerdotale de Jésus, rapportée par saint Jean au chapitre 17 de son évangile, lorsqu'après la dernière scène, Jésus prie « Le Père pour nous, pour que nous soyons un. » Car l'unité est avant tout un don, c'est une grâce à demander par la prière, a souligné le pape François, avant de faire remarquer que le Seigneur n'a pas commandé l'unité aux disciples. Il s'est adressé au Père, car nous ne sommes pas suffisants à nous seuls, avec nos forces, pour réaliser l'unité, et pas même, en premier lieu, l'unité en nous-mêmes. Oui, ajoute le Saint-Père, l'unité ne peut s'obtenir que comme fruit de la prière. Les efforts diplomatiques et les dialogues académiques ne suffisent pas, même s'ils sont bien sûr nécessaires. Prier pour l'unité signifie participer humblement et avec confiance à la prière du Seigneur qui nous a promis que toute prière faite en son nom sera écoutée du Père. Et pourtant, nous nous apercevrons probablement d'avoir prié peu, peut-être jamais, pour l'unité des chrétiens. Mais cette prière est importante, car Jésus a demandé l'unité pour que le monde croie. Le monde croira, non pas parce que nous le convaincrons par de bons arguments, mais si nous témoignons que l'amour nous unit et nous rend proches de tous, a déclaré le Saint-Père. Alors en ces temps troublés, la prière est encore plus nécessaire pour que l'unité prévale sur les conflits. Et le Saint-Père a appelé à mettre de côté les particularismes. Les chrétiens doivent donner le bon exemple en poursuivant le chemin vers une unité pleine et visible. Beaucoup de pas en avant ont été faits, a reconnu le pape François, mais il faut persévérer dans l'amour et dans la prière, y compris en luttant. Oui, lutter, car notre ennemi, le diable, est le diviseur, a rappelé le pape, avant de mettre particulièrement en garde contre les bavardages qui alimentent ces divisions. Au contraire, l'Esprit-Saint fait toujours converger vers l'unité. Afin de vérifier quel esprit nous anime, le Saint-Père a donné l'indication suivante. Je le cite, « Nous demander si, dans les lieux dans lesquels nous vivons, nous alimentons la conflictualité ou si nous luttons pour faire grandir l'unité avec les instruments que Dieu nous a donnés, la prière et l'amour. Restez enracinés dans l'amour du Christ. Telle est l'autre recommandation donnée par le pape lors de cette audience. En effet, la racine de la communion est l'amour du Christ qui nous fait dépasser les préjugés pour voir dans l'autre un frère, une sœur à aimer toujours. Alors nous prenons conscience que les chrétiens des autres confessions sont des dons de Dieu. Nous pouvons aussi prier pour les chrétiens d'autres confessions, et quand cela est possible, avec eux, a conclu François dans son ultime conseil, nous apprendrons ainsi à les aimer et à les apprécier. S'adressant enfin aux pèlerins de langue portugaise à la fin de cette audience générale, le pape François a assuré de sa prière pour tous ceux qui souffrent de la pandémie, en particulier à Manaus, dans le nord du Brésil. Que le Père miséricordieux vous soutienne en ces temps difficiles, a déclaré le Saint-Père. Oui, dans l'État brésilien de l'Amazonas, aux portes de l'Amazonie, la propagation de la COVID-19 fait des ravages. Les hôpitaux de la ville de Manaus, peuplés de 2,2 millions d'habitants, sont saturés et confrontés à une pénurie d'oxygène. L'archevêque de Manaus, Mgr Leonardo Steiner, a récemment interpellé les autorités brésiliennes à ce sujet et exhorté la population à la prudence. Voilà pour les mots du Saint-Père lors de cette audience générale et nous poursuivons sur le thème des armes nucléaires. L'humanité a besoin de paix et de coopération et l'engagement de tous est nécessaire. C'est l'appel que le pape a lancé aux États et aux citoyens lors toujours de cette audience générale à 2 jours de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires ce 22 janvier. Un monde sans armes nucléaires qui fasse avancer la paix. La voix du pape pour le désarmement mondial s'élève à nouveau avec force, dans le sillage de ses prédécesseurs, et 2 jours donc avant l'entrée en vigueur du traité approuvé en 2017, qui rend illégale l'utilisation, la menace, la possession et le stationnement d'armes atomiques. À l'occasion de l'audience générale du 20 janvier, le pape François a abordé le sujet juste avant d'aller saluer les fidèles italiophones. Je cite le Saint-Père, « Il s'agit du premier instrument international juridiquement contraignant à interdire explicitement ces dispositifs dont l'utilisation a un impact indiscriminé, touchant un grand nombre de personnes en peu de temps et causant des dommages à l'environnement à très long terme. » Voilà ce qu'a déclaré l'évêque de Rome. Pouvoir destructeur, impact perturbateur, celui du nucléaire ne laisse derrière lui que l'ombre et le silence, un trou noir de destruction et de mort. Comme l'avait dit d'ailleurs le pape lui-même dans son discours au Mémorial de la paix, c'était à Hiroshima le 24 novembre 2019. Et comme il avait voulu le souligner aux yeux de tous avec l'image tirée d'une photo de 1945 distribuée aux journalistes qui représente un garçon de 10 ans portant sur ses épaules le cadavre de son petit frère qui a été tué après l'explosion de la bombe atomique à Nagasaki. Ce fort encouragement de François à marcher ensemble pour construire un avenir plus juste et surtout un avenir de paix résonne encore aujourd'hui. Et je cite à nouveau le Saint-Père, j'encourage vivement tous les États et tous les peuples à travailler avec détermination pour promouvoir les conditions nécessaires à une voie sans armes nucléaires, en contribuant à faire progresser la paix et la coopération multilatérale dont l'humanité a tant besoin aujourd'hui. Un crime contre l'homme et sa dignité, et contre toute possibilité d'avenir. Ainsi, le pape a défini à plusieurs reprises l'utilisation des armes nucléaires, jugeant même leur simple possession immorale. Si nous voulons vraiment construire une société plus juste et plus sûre, voilà ces mots, c'étaient les mots qu'il a utilisés au cœur du Japon blessé par les bombes atomiques, nous devons laisser les armes tomber de nos mains. La ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires par un 50e État en octobre 2020 entraîne donc son entrée en vigueur vendredi 22 janvier 2021. Sa valeur est d'ordre symbolique, car il ne s'applique qu'aux États signataires, dont aucune des puissances nucléaires ne fait partie. Mais ses promoteurs en attendent un impact sur l'opinion. Le pape François a adressé un message de condoléances pour les victimes d'une explosion survenue à Madrid. C'était ce mercredi 20 janvier 2021. En effet, une déflagration a été entendue dans tout Madrid vers 15 heures. Il s'agirait d'une explosion due au gaz du système de chauffage au 98 de la rue Toledo, au centre de la capitale. Le bâtiment, appartenant à la paroisse de la Paloma, était habité par des prêtres et il abritait différents bureaux, dont ceux de la Caritas. Le toit de l'église porte encore les traces de la récente tempête de neige qui a paralysé la capitale, également frappée par la pandémie de Covid. Un bilan provisoire fait état de 3 morts et d'une dizaine de blessés. La police, qui publie une vidéo des dommages causés par le sinistre, travaille à la mise en sécurité des lieux, avec plus de 120 agents, et notamment une unité cynophile. Parmi les victimes, David Santos, électricien, qui révisait la chaudière au moment de l'explosion. Il appartenait au mouvement catholique du chemin néo-catéchuménal. Il laisse une femme et leurs 4 enfants. Un prêtre madrilène de 34 ans se trouve dans un état grave, le père Ruben Pérez Ayala. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a en effet adressé un télégramme au nom du pape à l'archevêque de Madrid, le cardinal Carlos Osoro Sierra. Il a été publié par le Vatican vers 20h le 20 janvier. À la nouvelle de la grave explosion survenue dans un immeuble rue de Tolède à Madrid, le pape François a adressé au cardinal, au clergé et à tous les enfants de ce peuple bien-aimé sa proximité et son affection en ces moments difficiles. Le pape élève aussi ses prières vers le Seigneur et il recommande très spécialement à sa miséricorde le repos éternel des victimes ainsi que les blessés et leurs familles. Et le pape François a invoqué l'intercession maternelle de Notre-Dame de l'Almudena, invoquée dans la cathédrale espagnole, et il leur accorde de tout cœur le réconfort de la bénédiction apostolique en signe de l'espérance chrétienne dans le Seigneur ressuscité. Voilà, mes auditeurs, et pour conclure cette actualité du pape François, comme à notre habitude, je vous propose donc d'écouter une méditation sur le baptême du Seigneur. C'est le père jésuite Adrien Lentiampa qui nous introduit à la méditation avec les lectures de la solennité du baptême du Seigneur de l'année liturgique B. On l'écoute tout de suite.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre le baptême du Seigneur. Cette solennité clôture les célébrations autour de la Nativité. Et d'une certaine manière, le baptême du Seigneur nous permet de recueillir toute la richesse du mystère de l'Incarnation. Dieu s'est fait homme et il se tient parmi nous. Avec l'Emmanuel, Dieu nous associe de manière indéfectible à sa propre vie et fait de nous ses enfants. L'Évangile de ce dimanche nous manifeste cela. Jean le Baptiste y proclame la véritable identité de Jésus de Nazareth. Il est celui qui vient avant toute chose, celui qui mérite tout honneur et toute gloire, au point que nul n'est digne de s'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Celui qui apporte l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous associe à la vie de Dieu. Et pourtant, Jésus, c'est un des dieux, choisit de se mettre avec nous sous les rangs des pécheurs pour nous en faire sortir. En effet, le baptême que proclamait Jean était un baptême de conversion, de purification. C'est dans ce baptême que Jésus, Fils de Dieu, sans péché, demande à être plongé. En s'associant ainsi à la file des gens qui reçoivent ce baptême, Jésus l'Emmanuel accepte de prendre place parmi nous, pécheurs, pour que notre purification soit œuvre de son amour. On peut donc dire qu'en recevant le baptême, le Christ accomplit ses gestes de conversion et de renouvellement pour nous, annonçant par là l'offrande de sa vie, source de notre libération et de notre salut. Aussi, saint Paul peut-il dire, comme nous le lisons dans la deuxième lecture de ces jours, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. » Par son baptême, Jésus nous montre aussi comment vivre un enfant de Dieu, de manière à ce que le Père trouve en chacun de nous sa joie, comme c'est le cas avec son Fils unique, à qui il dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » En cette solennité du baptême de Jésus, qui rappelle notre propre baptême par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu, chacun est invité à se poser la question de savoir si notre Père peut trouver sa joie en lui. Nous sommes invités à nous poser la question de savoir si nous sommes encore attentifs à la voix de l'Esprit Saint qui crie en nous disant à Dieu « Abba, Père ». Il s'agit pour chacun de raviver l'alliance qui nous lie à Dieu et de chercher le Seigneur, car il n'est pas sûr que notre vie est toujours une recherche constante du Seigneur. Le prophète Isaïe nous invite pourtant à cette démarche. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Il nous faut revenir constamment au Seigneur pour goûter à sa miséricorde. C'est cela qui devrait être le leitmotiv tout au long du temps ordinaire qui s'ouvre avec cette solennité du baptême de Jésus. Pourquoi dépenser notre énergie pour ce qui ne nourrit pas, nous dit encore le prophète. Prions donc le Seigneur pour que cette fête du baptême du Seigneur nous fasse prendre la mesure de notre propre baptême. Que nous soyons, de par notre engagement chrétien, des hommes et des femmes en qui l'on peut reconnaître les fils et les filles bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire en qui le Seigneur peut trouver toute sa joie. Amen.
Voilà, chers amis auditeurs, et c'est donc sur cette méditation sur le baptême du Seigneur du Père Adrien Lentiampa que nous terminons cette actualité du pape François. Et je vous retrouve bien sûr jeudi prochain à même heure, 14h. Au revoir à tous.